Bonjour, vous écoutez LangFM, le podcast sur les langues et les gens, ce que les gens font avec les langues et ce que les langues font avec les gens. Cet épisode est la troisième et la dernière dans une petite série à propos des langues des signes. J'ai commencé en Écosse avec les professeurs Jemina Napier et Graham Turner et l'histoire de la British Sign Language Scotland Act. Après, j'ai rencontré Laura Schwenkberg en Allemagne, où elle invite les sourds de vivre à la musique que normalement ils ne peuvent pas entendre. Et bien voilà, maintenant, on conclut la série en France avec Stéphane Barrère, qui nous parle de son parcours personnel et de la vie d'hier et d'aujourd'hui des sourds en France. Bonne écoute!
Pendant 10 années, j'ai travaillé comme responsable de com, alors soit en agence de pub, soit au sein de grands groupes industriels qui bossaient dans l'énergie, où je m'occupais de la communication à l'international. Donc ça n'avait rien à voir. Puis au bout d'une dizaine d'années, pour des raisons à la fois professionnelles et personnelles, je me suis arrêté. J'ai pu faire une pause dans ma vie professionnelle de 2 ans. Donc je suis allé à Pôle emploi, qui est l'organisme en France qui gère les chômeurs. Et donc j'ai pris les catalogues de formation et j'ai trouvé ce métier d'interprète en langue des signes. Et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas. Comme j'étais très naïf là-dessus, je pensais qu'en 3 mois, le problème était réglé. C'est pas du tout le cas. Comme j'ai un blog où je traite de la langue des signes et de l'interprétation, je suis très souvent contacté par des personnes qui veulent devenir interprète en langue des signes, qui me demandent comment faire. Moi, j'encourage les gens à le faire, je trouve que c'est un métier merveilleux, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce qu'il faut savoir en France, c'est que pour apprendre la langue des signes, tu n'as pas de cours public. Tu n'as pas la fac, tu n'as pas l'école. Donc, tu es obligé d'aller dans des associations. Une semaine d'apprentissage de la langue des signes, c'est entre 250 et 300 euros. Pour pouvoir espérer rentrer en première année d'interprétation en langue des signes, le MA, il faut minimum 14 semaines de cours, je pense. Ça veut dire que donc, tu vois, tu es dans la plus de 2500, 3000 euros de frais, déjà avant même de commencer à faire ta formation d'interprète elle-même, tout simplement pour apprendre la langue des signes. Donc moi, j'ai appris pendant 1 an et demi la langue des signes. Une semaine par mois de cours intensifs, et puis parallèlement à ça, il faut rencontrer des sourds. Et là, c'est aussi une autre difficulté. Il n'existe pas de pays sourd. On ne peut pas faire des voyages linguistiques. On ne peut pas faire d'immersion pendant 6 mois, 1 an dans un pays, aller passer à New York. Donc, il faut qu'on fasse la démarche. Il faut la pratiquer, cette langue. Et il faut la pratiquer avec des locuteurs naturels, qui sont les sourds. Soi-même, il faut qu'on se bouge le cul et vraiment aller au contact de ces personnes sourdes, quoi. On ne va pas t'appeler pour te dire « viens, c'est à toi d'y aller ». Donc moi, ça a duré pendant 1 an et demi. Par exemple, moi, j'ai travaillé au sein d'une association qui s'appelait Tiers Monde Sourd. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pour aider des enfants sourds en Afrique. Et puis au bout d'un an et demi, donc, je suis rentré en première année d'interprétation en langue des signes. Au bout de cette première année d'interprétation en langue des signes, j'ai fait une pause d'1 an où j'ai recommencé à bouffer vraiment littéralement de la langue des signes pour vraiment m'en imprégner. Et là, j'ai donné des cours en langue des signes auprès de publics sourds sur ce qui était le monde du travail. Donc moi, tu vois, ça m'a pris à peu près 6 ans pour devenir interprète en langue des signes. C'est amusant d'ailleurs parce que je me rappelle que de temps en temps, il y a des enfants sourds ou même des jeunes adultes qui me demandent à moi, enfin ils me voient signer et qui me disent « Ah, t'es sourd !» Et je dis « Ben non, je ne suis pas sourd, je suis interprète, donc je ne peux pas être sourd si je suis interprète. » Et en fait, parce que pour eux, comme je te disais, la surdité, ce n'est pas de ne pas entendre, la surdité, c'est de signer. La surdité n'est pas conçue comme une déficience, c'est-à-dire un manque. La surdité, c'est pratiquer une langue des signes, s'inscrire dans une communauté, dans une culture sourde. Pour reprendre les terminologies, on va parler pour des personnes donc sourdes, ce sont des personnes qui n'entendent pas. Alors il y a des personnes qui sont nées sourdes, il y a des personnes qui sont devenues sourdes, il y a des personnes qui sont malentendantes en fonction du degré de surdité, etc. Certaines vont utiliser la langue des signes et d'autres vont passer directement dans l'oral. C'est pour ça que, par exemple, la terminologie qu'on utilisait beaucoup au 19e siècle, où on parlait de sourd-muet, elle a perduré, mais elle est assez mal acceptée aujourd'hui au sein de la communauté sourde parce qu'elle renvoie d'abord à un passé et surtout, elle n'est pas vraie. Personnellement, je n'ai jamais rencontré un sourd-muet. Nous, justement, en tant qu'interprètes, on traduit. Quand quelqu'un nous demande « Ah, vous, monsieur, comme il est sourd-muet », nous, on va traduire, évidemment, « Monsieur, comme vous êtes sourd-muet », et systématiquement, je le sais déjà au moment où je le traduis, que je peux m'attendre à traduire une réaction assez violente de la part de la personne sourde qui va dire « Mais non, je ne suis pas muet, simplement je suis sourd ». Voilà. Tous les sourds ont le système phonatoire qui fonctionne parfaitement. Donc ils pourraient s'exprimer à l'oral. Et d'ailleurs, certains sourds sont élevés dans l'éducation oraliste et parlent et ne connaissent pas la langue des signes. Le seul chose, c'est que ces personnes sourdes, n'entendant pas leur voix, ne peuvent pas la contrôler. Et donc pour beaucoup, ils savent que ça a fait une voix bizarre, qu'on va se moquer d'eux. Donc c'est pour ça qu'ils ne préfèrent pas l'utiliser. À côté de ça, donc, il y a les entendants. Ce sont des personnes comme toi, comme moi, qui entendons plus ou moins bien. En France, il y a à peu près 10% de la population qui a un problème avec l'audition. Mais dans ces 10%, évidemment, il y a toutes les personnes âgées qui sont devenues sourdes. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être amenées à utiliser la langue des signes. Ce sont effectivement des personnes qui, par exemple, n'ont pas l'utilisation du langage. C'est par exemple les aphasiques, des personnes qui ont eu des traumatismes, des accidents de la route. On parle aussi pour des enfants qui sont, par exemple, autistes. On essaie de passer via la langue des signes pour essayer d'établir une communication avec eux. Les langues des signes donc, sont visuelles, c'est-à-dire que votre corps va être le temps. Donc ce qui se passe derrière toi, c'est le passé. Ce qui se passe à ton niveau, c'est le présent. Et ce qui va se passer devant toi, c'est le futur, par exemple. Et ça, dans toutes les langues des signes, c'est universel. On va également faire des emplacements, c'est-à-dire que mettre des éléments à gauche, mettre des éléments à droite. Tout ça, on les retrouve dans toutes les langues des signes. Là, vraiment, la grande différence, ça va être la configuration des signes. Un peu comme le vocabulaire, en quelque sorte. C'est comme si toutes les langues vocales avaient la même grammaire et simplement le vocabulaire changeait. Comme on est comme une sorte de radio, je ne peux pas te faire des démonstrations de signes, mais par exemple, pour dire bonjour en langue des signes française, c'est la main à plat qui s'éloigne de la bouche. Pour dire bonjour en langue des signes chinoise, ce sont les deux index qui vont se faire face à face et qui vont se baisser. Et en fait, ça reprend un peu la position de la personne qui se baisse pour saluer. Et donc, ça va très vite coller entre une personne sourde, par exemple, qui pratiquerait la langue des signes espagnole et une personne sourde qui pratiquerait la langue des signes japonaise, par exemple. En une journée, ils arrivent à peu près à communiquer. Par exemple, en France, il y a la FNSF, qui est la Fédération Nationale des Sourds de France, qui a commencé à avoir une reconnaissance mondiale donc des besoins des sourds. Et ça, cette reconnaissance mondiale n'a pu avoir lieu que parce qu'aujourd'hui, il y a une organisation mondiale des communautés sourdes qui leur permet donc de porter leur parole envers les institutions internationales. Moi, les collègues à l'international que je connais, en fait, je les connais par l'EFSLI, qui est donc en fait l'Association européenne des interprètes en langue des signes, qui se réunit une fois par an. Au cours donc de ces réunions, de ce regroupement, il y a à peu près 150-200 interprètes en langue des signes européens qui se réunissent. Donc ça permet d'échanger, de voir un peu comment ça se passe à gauche, à droite. Mais voilà, comme ça, mais c'est assez léger, hein, mais c'est très sympa à chaque fois. Enfin, moi, je passe un bon moment. Et c'est toujours bien de voir quand même qu'on fait partie d'une communauté. On a quand même toujours les mêmes problématiques, que ce soit la reconnaissance du métier lui-même, sa protection, et puis la communauté sourde. Un peu d'histoire parce qu'il faut savoir qu'en France et dans plusieurs pays européens, à partir de 1880, ce qu'on a appelé le Congrès de Milan, la langue des signes a été interdite. C'est-à-dire qu'on a décidé que comme 250 chercheurs se sont réunis à Milan et ont dit non, Il ne faut plus que les sourds pratiquent la langue des signes, il faut qu'on les amène à la parole. Parce qu'on était à ce moment-là au 19e siècle, c'était la révolution industrielle, il y avait une idée de progrès, et on était extrêmement confiant dans l'avenir, et l'avenir ne pouvait passer que par la parole. Le signe, non, enfin, ça ramenait à nos ancêtres, aux singes, au passé, ce n'était pas possible. Donc on a interdit la langue des signes, et cette interdiction a couru en France jusque dans les années 70. C'est-à-dire qu'on attachait les mains aux enfants, on les obligeait à oraliser, et simplement, enfin c'était dans leur petit groupe, en famille, ou dans la cour de l'école au fond, derrière l'arbre, qu'ils pouvaient effectivement pratiquer cette langue des signes. Donc pendant 100 ans, la langue des signes n'a plus du tout eu lieu cours en France. Et c'est à partir des années 70 qu'on a commencé à lever cette interdiction avec ce qu'on a appelé le réveil sourd de 1975 à peu près, où là la communauté sourde française, après avoir vu ce qui se passait aux États-Unis, dit c'est pas possible, nous on doit également revendiquer et demander des droits, et notre droit c'est d'abord d'avoir le droit d'utiliser cette langue des signes qui est notre langue. La communauté sourde a été décimée par le HIV et par le SIDA.
Ce mal mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle et qui s'est révélé mortel pour près de 500 personnes. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Il faut rappeler qu'une cinquantaine de cas ont été décelés en France. Aux États-Unis, le SIDA.
Tout simplement parce qu'aucune communication n'a été faite envers dédiée à cette communauté. Et donc, dans les années 90, les sourds n'avaient absolument pas compris ce que c'était que le SIDA. Pour donner une idée, et on va voir quand même tous les problèmes de communication que peut avoir la surdité, sur les plaquettes d'information en France, souvent le virus du sida était représenté par une sorte de grosse boule avec, jaune ou rouge avec des grands pics. C'était le virus. Hein. Les sourds, ne sachant pas lire et voyant ça, pensaient que le sida s'attrapait avec le soleil. Et donc, tu mettais de la crème solaire. Et pour se protéger. Donc, tu peux imaginer les dégâts que ça a causé dans la communauté. Et donc, c'est des sourds qui, voyant ça, se sont réveillés, ont vraiment gueulé, ça se plaît de le dire. Et donc, le gouvernement français, à ce moment-là, a pris conscience, effectivement, du drame qui était en train de se jouer. Et donc, a créé des pôles d'accueil surdité, le premier étant, je crois, la Salpêtrière à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, des zones d'accueil dédiées aux personnes sourdes, avec des interprètes, des médecins qui connaissent plus ou moins la langue des signes, des infirmières qui connaissent plus ou moins la langue des signes, et des médiateurs sourds, c'est-à-dire des personnes sourdes, qui sont également formées pour tout ce qui est soins, accueil du public, malades, etc. Donc là-dessus, c'est à peu près bien fait. En revanche, c'est vrai que pour ce qui est de la justice, on est très très en retard. Par rapport au niveau européen, c'est un programme qui est mis en place, s'appelle Just Sign, pour justement essayer de permettre aux sourds d'avoir un accès juste et équivalent à d'autres personnes au sein donc des institutions judiciaires, police, etc. Mais on en est encore très loin en France. En France, on a vraiment un gros déficit au niveau de l'accessibilité je dirais des médias en général. Donc, comme je disais, les sourds ayant un problème avec le français écrit, pas tous, hein, mais une grande majorité quand même, ne lisent pas ou peu la presse, évidemment. Et souvent, on a aussi l'idée, qui est fausse, qu'il suffit de sous-titrer les informations pour les rendre accessibles. Alors, c'est possible peut-être pour des gens qui connaissent déjà, qui ont déjà le contexte, qui ont déjà des informations autour des thèmes qui sont abordés. Mais quand c'est du sous-titrage en direct, d'abord, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, il y a souvent un décalage, il y a souvent des mots compliqués. Si on n'a pas le contexte, on n'est pas obligé de savoir à quoi ça renvoie, à quoi ça fait référence. Et donc, suivre à la fois les images, devoir lire les sous-titres qui vont très vite, etc., par exemple, pour des enfants ou des ados, c'est pas possible. Et jusqu'à présent, les grands événements français ne sont pas ou peu traduits en direct par des interprètes en langue des signes. Alors, il y a eu dans les années 80, assez rapidement, sur la deuxième chaîne du service public, la mise en place d'un journal télévisé qui était traduit en langue des signes, mais ce journal télévisé, il est diffusé à 6h30 du matin. Parfois un peu tôt, surtout pour des enfants. Et il y en a une deuxième version à 9h, mais il dure 5 minutes, tu vois, donc c'était vraiment peanuts. Après, par la suite, avec l'arrivée des chaînes d'information en continu, le CSA, qui est l'organisme qui chapeaute un peu l'audiovisuel français, a imposé la présence d'interprètes en langue des signes sur un journal par chaîne et par jour. chez nos collègues belges, je crois que c'est le journal de 18h ou de 19h, je crois, il est traduit en langue des signes tous les jours, plus ou moins, et c'est un journal qui dure une demi-heure quand même. Il suffit de prendre exemple avec les États-Unis. Enfin, à New York, quand il y a le moindre tempête qui commence à arriver, qui vont fermer les jardins, et que le maire fait une intervention ou une allocution pour mettre en garde ses citoyens, il y a un interprète en langue des signes qui est à côté du maire qui traduit. En France, donc, quand il y a eu les événements dramatiques en 2015, aussi bien la tuerie de ce qu'on appelait la tuerie de Charlie Hebdo au mois de janvier, puis ensuite les attentats contre le Bataclan, le Stade de France et les bars dans le 11e arrondissement au mois de novembre.
La première attaque a eu lieu dans la salle de spectacle du Bataclan, dans le 11e arrondissement de Paris. Une fusillade a éclaté. Bilan provisoire, 15 morts. Une prise d'otage est en cours. Les hommes du raid sont en action. Deuxième attaque aux portes du Stade de France à Saint-Denis.
Il y avait des images horribles à la télévision qui passaient. Il y avait des prises de parole par les politiques, par le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Aucune de ces prises de parole n'a été traduite en langue des signes. Pour les personnes sourdes, il y avait une sorte de décalage complet par rapport à la réalité. Ils ne comprenaient. Ils voyaient juste ces images qui défilaient, sans contexte, sans explication, ils ne comprenaient rien. Quand il y a eu la tuerie dans le supermarché Cacher suite au. Ça c'était au mois de janvier, cette tuerie a eu lieu le vendredi. Et le lundi, moi j'étais dans un institut de jeunes sourds en région parisienne, et BFM TV, qui est une chaîne d'information en continu, repassait des images de ces événements-là. Et les enfants sourds avec qui j'étais étaient paniqués parce qu'ils pensaient que ça recommençait et qu'il y avait encore une nouvelle tuerie dans un nouveau supermarché. Ils n'avaient pas compris que c'était des images d'il y a 3 jours. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sourds qui ont pris conscience des carences des services publics et du gouvernement, et donc qui ont pris en charge eux-mêmes l'accessibilité de ces informations, et donc ont créé une sorte de chaîne éphémère sur Facebook. Ils ont créé une page. Ils ont fait appel aux interprètes, j'en ai fait partie, et d'autres de mes collègues également, où on traduisait des extraits du journal télévisé, alors c'était en léger différé, mais où on donnait il y avait des personnes sourdes qui directement, il y avait un journal en langue des signes. Enfin, ils ont essayé de reconceptualiser et de redonner du sens et tout simplement d'informer directement en langue des signes la communauté pour qu'elle soit un peu au courant de ce qui se passait. Pour une personne sourde, elle n'est jamais assurée d'avoir un interprète dans ses démarches officielles, sachant qu'il n'y a pas. Il y a des textes qui sont parus à partir de 2005. Le problème, c'est que souvent, ils sont bafoués ou que l'interprète en langue des signes, n'étant pas une profession officiellement reconnue, mais enfin, comme n'importe quel interprète ou traducteur, hein, enfin, quelle que soit la langue, on met un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que souvent, dans les tribunaux, par exemple, alors qu'il devrait y avoir des interprètes en langue des signes, on peut espérer quand même diplômés, ce n'est pas le cas. Et donc, on prend des gens qui connaissent un peu la langue des signes pour faire office d'eux et se donner bonne conscience. Et donc, c'est en 2005 qu'a été votée en France la loi pour l'égalité des chances et des citoyens. Et donc, dans cette loi, il est indiqué que, et là je cite parce que j'ai retrouvé la citation, « la langue des signes française est reconnue comme langue à part entière ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants peuvent bénéficier d'un enseignement bilingue, enfin les enfants sourds, quand s'ils le souhaitent. Les nouvelles technologies, elles ont eu un double effet. D'abord, elles ont. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que les communautés sourdes, pendant jusqu'au XXe siècle, le siècle dernier déjà, étaient assez autonomes, mais également avaient peu de relations les unes avec les autres. Tout simplement parce qu'elles ne pouvaient pas utiliser le téléphone. Il faut savoir que les personnes sourdes, généralement, ont eu un rapport très difficile avec l'écrit. Puisque la langue, on va dire, majoritaire dans le pays dans lequel ils vivent, est une langue à la fois orale et écrite, et que pour eux, apprendre par exemple le français écrit ou l'allemand écrit, c'est comme apprendre une langue étrangère. Et les cours étant généralement peu adaptés à ces personnes sourdes, ils sont en échec scolaire, notamment sur l'écriture. pas de téléphone possible, à l'époque, hein, pas d'envoi de courrier, de lettres, de cartes postales, donc ils vivaient un peu de façon autonome, chacun dans son clan. L'arrivée de nouvelles technologies, ça a été d'abord en France le Minitel.
En se lançant dans l'aventure télématique, la Direction Générale des Télécommunications vient d'engager un incroyable pari. Un de ces paris dont on ne peut mesurer encore les conséquences. Faire de l'information une des matières premières de notre avenir.
Branchez votre téléphone ici.
Le résultat, c'est la distribution massive et gratuite d'un petit terminal, le Minitel. Quand on le regarde, le Minitel n'a l'air de rien, c'est juste un clavier et un écran noir et blanc. Et pourtant, grâce à lui et par l'intermédiaire de votre téléphone...
Qui a été pour les sourds une sorte de permis de désenclaver, surtout des sourds solitaires, et de pouvoir communiquer à distance les uns avec les autres. Et la deuxième étape, ça a été l'arrivée d'Internet avec les technologies qui s'y rapportent, comme les webcams, comme les mails, et puis évidemment les téléphones portables, pareil, webcam, SMS, etc. Alors ça a eu un double effet. D'abord, ça a permis de désenclaver certaines communautés sourdes. Ça a aussi aujourd'hui une tendance à uniformiser la langue des signes sur tout le territoire. Parce qu'auparavant, donc, il y avait effectivement, comme je le disais, alors non seulement il y avait des langues par pays, mais il y avait même des spécificités régionales. C'est-à-dire qu'à Grenoble, le signe pour dire rendez-vous n'est pas le même qu'à Paris. Juste sur les nouvelles technologies, ça a permis donc aux sourds donc de beaucoup mieux communiquer. Aujourd'hui, d'utiliser FaceTime, ils peuvent comme ça passer des coups de fil en vidéo. Et puis également développer de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on en parle beaucoup en France, mais c'est déjà dans d'autres pays comme les États-Unis, ça fait déjà plus de 10 ans que ça est en place, qui sont les centres relais. C'est-à-dire que vous avez des interprètes sur une plateforme téléphonique et la personne sourde appelle en visio. L'interprète réceptionne la visio et lui passe un coup de fil à la voix à la personne qui est demandée. Par exemple, si un sourd, je ne sais pas, veut prendre un rendez-vous chez le médecin, il téléphone par ce système, donc l'interprète traduit directement, l'interprète à distance, hein, bien sûr, traduit sur sa plateforme téléphonique au médecin et réciproquement. Donc en fait, il y a juste une sorte d'intermédiaire, mais à distance. Voilà, donc ça permet de désenclaver les sourds et de mieux, plus ou moins, les intégrer à la société. Donc effectivement, les nouvelles technologies ont quand même eu un avantage certain pour la communauté sourde et pour l'interprétation en général. Pour nous, interprètes en langue des signes, ça nous arrange, je dirais, parce que aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites pour essayer de faire des interprètes, on va dire, artificiels via des avatars ou des gants. Mais par exemple, les ingénieurs qui mettent des gants pour essayer de retranscrire des signes automatiquement via des reconnaissances perdent toute la partie visage, corps, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies sont très peu développées, justement parce que on reste sur les mains et on ne comprend pas que la langue des signes, c'est vraiment un ensemble complet. C'est-à-dire que si je signais et qu'on ne voyait que mes mains, on ne comprendrait pas mon discours. L'enfant qui naît, immédiatement, on lui met un implant cochléaire, c'est-à-dire que et on va le mettre dans la parole, un peu comme ça s'est fait au siècle dernier. Hein. C'est-à-dire qu'on doit réparer, on a toujours cette vision maintenant un peu de l'homme bio-ionique qu'on va assister de différents éléments techniques qui va lui permettre d'entendre de nouveau. Les implants cochléaires, c'est en fait, on va remplacer le nerf auditif par une sonde et ensuite ça va permettre plus ou moins de devenir malentendant, pas entendant. Hein. C'est-à-dire qu'un sourd deviendra malentendant, il ne deviendra certainement pas entendant. 80% des enfants sourds naissent dans des familles d'entendants. Donc, une famille d'entendants qui a un enfant qui n'entend pas, avec lequel il ne peut pas communiquer, c'est un choc énorme. La communication, la parole entre un enfant et son père et sa mère, c'est la base de la relation filiale. Si ça n'a pas lieu, les parents sont désemparés, vont se tourner vers le corps médical qui va dire « mais vous inquiétez pas, on va le réparer, on va le faire entendre ». On entend un peu tout et n'importe quoi au niveau de ces réparations. Et ça marche plus ou moins bien, je ne dis pas que ça ne marche pas. Simplement, il est dommage que parallèlement à cette réparation, entre guillemets, terme que je n'aime pas, on ne propose pas cette langue des signes qui est quand même la langue sur laquelle ils vont pouvoir se construire, ils vont pouvoir construire leur identité et surtout par la suite apprendre d'autres langues. Si tu n'as pas une langue première sur laquelle tu peux te baser pour construire les concepts, les idées, comprendre et conceptualiser le monde dans lequel tu vis, après tu ne peux pas apprendre d'autres langues. Et le problème en France qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un rejet de la langue des signes comme langue d'enseignement, ce qui fait que les enfants sont appareillés, on va les forcer directement à apprendre le français oral, et il y en a beaucoup qui sont en échec là-dessus. Et surtout, ça veut dire que toute cette communauté sourde, signeur, avec sa culture et avec cette langue, elle est quand même mise en danger par ces nouvelles technologies. Je ne dis pas que les nouvelles technologies ne sont pas bonnes, je dis simplement que il devrait y avoir les deux en parallèle, et aujourd'hui, il n'y a pas les deux en parallèle. Et c'est d'autant plus surprenant que parallèlement à ça, en France, il y a une sorte d'amour pour la langue des signes, mais par les entendants. Par exemple, ça s'est vu à travers La Famille Bélier, qui est un film donc, qui a eu un succès fou.
Et qu'est-ce qu'elle a, la dame ?
Ça s'appelle La Division du Travail. Elle sourit et je parle.
Amusant.
Bah, une famille.
Mais qui est sur un plan linguistique, langue des signes, nul, puisque les acteurs sourds étaient joués par des entendants, à qui on a donné une semaine de langue des signes, et les sourds étaient, en France étaient furax, parce qu'ils disaient, mais il y a des acteurs sourds qui auraient pu très bien remplir cette fonction, pourquoi ne leur a pas avoir donné ce rôle ? Les entendants qui signent très mal, on voit qu'ils ne sont pas sourds, et on voit que ce n'est pas leur langue, tu vois. Il y a quand même, en même temps, un engouement pour la langue des signes, mais par les entendants, parallèlement à ça, pour les sourds qui auraient vraiment besoin de cette langue des signes, en revanche, on leur refuse cet enseignement. Il y a un côté très folklorique autour de la langue des signes. On aime ça, c'est beau, c'est joli, ça, j'adore, c'est super, ah, j'adore. Mais quand ça vraiment devient sérieux et qu'on devrait donner cette langue des signes à des enfants qui en ont besoin pour pouvoir communiquer, qui en ont besoin pour pouvoir s'inscrire dans la société, qui en ont besoin pour pouvoir se développer et espérer ensuite apprendre, continuer à l'université, apprendre un métier, celle-là, on la refuse. Pour la langue des signes, ce serait tout simplement... Alors, elle a eu sa reconnaissance. Il y a eu un mouvement Nuit Debout en France, qui était un peu un mouvement revendicatif sur différents aspects. Et parmi ces revendications, il y a une communauté... Certains sourds sont allés également Place de la République à Paris, et puis dans d'autres places en France, pour porter leurs revendications. Et leur revendication première, c'était que si on mettait en place une 6e République avec une nouvelle constitution, la langue des signes soit inscrite comme langue de la République, au même titre que le français. Donc c'est un peu ça, et ça voudrait dire que ça apporterait une reconnaissance vraiment officielle et définitive à cette langue, et surtout que ça permettrait donc ensuite qu'on la retrouve aussi bien dans les médias que dans l'enseignement, etc. Aujourd'hui, c'est ça, ce qui nous manque, c'est vraiment qu'il y ait une reconnaissance de cette langue comme langue vraiment à part entière. Pour les interprètes en langue des signes, ce serait sans doute une reconnaissance plus officielle de cette fonction, ce qui permettrait d'éviter tous les personnes faisant office d'eux ou qui n'ont pas les compétences et qui font un peu tout et n'importe quoi, et qui nous permettrait ensuite comme ça de réellement donner une valeur à ce métier. Au sein de l'Association des interprètes en langue des signes, il y a vraiment un travail qui est fait pour justement la reconnaissance de ce métier. En France, là, il y a eu une belle loi pour une république numérique dans laquelle donc, sont créés des centres relais téléphoniques. Et grâce à l'action de l'Association des interprètes en langue des signes et d'autres associations, bien sûr, il est inscrit que les interprètes qui interviendront dans les centres relais téléphoniques devront être diplômés. Et je pense que ça, c'est un grand pas pour la reconnaissance de notre profession. Et puis le deuxième point, c'est justement penser systématiquement à faire venir des interprètes en langue des signes. Là, s'ouvrent les campagnes électorales pour les élections, d'abord les primaires pour le choix des candidats, puis ensuite pour les élections présidentielles. Penser systématiquement à mettre des interprètes en langue des signes pendant les interventions. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Les interprètes sont là, ils sont compétents. Enfin, y a pas de... Nous, on est là, on est prêts. On est essentiellement financé par les budgets handicap. Il faudrait qu'on arrive un peu à changer et qu'on soit vraiment financé par d'autres, peut-être d'autres budgets. Mais les interprètes sont là, ils ont les compétences. On n'a plus qu'à penser à faire appel à eux. Et faire comprendre que Faire venir un interprète en langue des signes, c'est pas dévalorisant. Au contraire, c'est penser qu'il y a une communauté. C'est surtout ça, un cercle vertueux. Parce que si on leur donne une formation en langue des signes qu'ils peuvent s'approprier, si effectivement on les inclut mieux dans la société à travers les informations, à travers, je ne sais pas, les meetings politiques, etc., ce sont des personnes qui vont progresser au sein de la société, qui vont pouvoir faire des études et qui eux-mêmes ensuite vont pouvoir occuper des postes qui pourront transmettre directement eux-mêmes en langue des signes, former d'autres personnes en langue des signes. Enfin, tu vois, on rentre dans un cercle vertueux et là, il y a une meilleure intégration des sourds et des entendants au sein de la même société. Il faut changer un peu le logiciel de la société française.